plus méchants diront que c'est pour un meilleur départ. Bonsoir à tous et bienvenue à ce tout premier podcast The Eye Formation. Eh bien oui, après le départ de Dion l'an dernier, c'est maintenant au tour de Faf de tout simplement quitter. Il est à bout. Il n'y a plus rien à dire sur ses Crimson Ties. Il est en peine. Non, je vous niaise. Faf, spin that shit.
Bonsoir à tous et bienvenue à ce tout nouveau podcast de Triple Option, une gracieuseté de Triple Option présentée par les Longhorns du Texas. Comme je le dis depuis le jour 1, OK, Mop, let's fucking go Texas. Depuis que je suis allé visiter ce stade-là, c'est mon équipe, mesdames et messieurs. Tellement content de la victoire en fin de semaine. Incroyable, upset de l'année. C'est génial, j'adore tout ça. Ben non, évidemment. Malgré la défaite de mon équipe, on est de retour au combat une fois de plus. J'ai eu la chance dans ma vie de changer d'équipe une fois pour choisir une astuce d'équipe de perdage potana à moitié. Fait que je me suis fait une belle collection de casquettes. Fait qu'on va toujours mettre la casquette d'un vainqueur à chaque fois qu'on fait ce show-là.
Tu commences à avoir du choix, toi aussi, Faf, comme ici.
Eh oui. Martin Plouc, j'ai dit sur Twitter de pas manquer ça. Je mets ma casquette, je me résigne à mettre ma casquette, je m'avoue,
un bon joueur.
Je m'abaisse bien bas à votre victoire, évidemment. On va en parler plus tard dans les revues de match, mais c'était pas qu'une simple victoire. Martin reste avec nous tout le long, ça va être assez incroyable. Donc, ça a été quand même une semaine qui a été excessivement captivante, pardon. On a beaucoup de bons stocks pour vous. Wallet, merci pour l'intro. Nouveau petit drop à toi. Là.
On va essayer de magnifique.
Pas trop souvent. Comment ça va, mon vieux, toi?
Ça va super bien, Faf. Écoute, comme tu as dit, naturellement, il y a eu le match de l'Alabama-Texas. On va en parler en long et en large, mais il y a eu beaucoup de matchs de qualité lors de la semaine 2. Écoute, college football bat son plein. On a une saison qui s'annonce extrêmement excitante. Puis, je sais que c'est ton équipe. Je dis pas ça pour tourner le couteau dans le plaid, mais il y a comme un feeling de jouissance, de je sais pas comment l'expliquer, mais un feeling comme tu te sens revivre en dedans lorsqu'Alabama perd. La même une semaine que Kansas City perd. Écoute. En tant qu'amateur de football, qui aime probablement plus le football pour haïr des équipes que d'en aimer, parce que, en tout cas, on ne parle pas de LSU trop. Ça fait du bien. Donc, on a un bon show pour vous. Puis, Faf, j'espère que tu t'es remis de tes émotions de samedi.
Ben oui, sans problème. Il y a pire que ça dans la vie. On va commencer ça tout de suite parce qu'on a un très long show, comme on vous a dit, un show très chargé. Donc, on va commencer ça avec le segment nouvelles parce que malgré le fait qu'on ait une bonne semaine, en plus, il y a des nouvelles qui ont sorti pendant la fin de semaine assez incroyables. On passe ça maintenant. Yes, donc segment nouvelle. Wallet, coach Mel Tucker de Michigan State a été suspendu / congédié. On n'est pas trop sûr de la situation. Les premières rumeurs disaient qu'il avait été congédié. Par la suite, on a annoncé qu'il a été suspendu. C'est quoi les plus récents développements? Puis explique-nous exactement qu'est-ce qui se passe là à Michigan State.
Ouais, c'est sorti, c'est-tu samedi? Je pense que c'est samedi soir pendant les games de la soirée, comme quoi Mel Tucker avait été congédié. Par la suite, on dit non, qu'il a été suspendu. Les récentes rumeurs, qu'est-ce qui se dit, c'est que il aurait peut-être été congédié, puis qu'un avocat qui a dit non, time out, on ne peut pas le congédier, on va le suspendre sans paye pour ne pas se faire poursuivre par la suite. Longue histoire courte, qui est quand même assez intéressante, c'est que Mel Tucker était sous enquête pour des inconduites sexuelles, et ce, depuis le mois de mars dernier. Donc, une enquête qui perdure depuis déjà 6 mois. Puis de ce qu'on nous aurait dit, de ce qu'on a entendu, c'est qu'il y aurait eu des discussions inappropriées au téléphone durant lequel il se serait donné un petit peu de plaisir. Donc, du bon vieux sex talk ou du phone sex talk. Le problème dans tout ça, c'est que la personne avec qui il faisait ce sex talk-là, c'est une dame du nom de Brenda Tracy qui avait été engagée par l'université pour parler des effets de violence sexuelle puis d'agression sexuelle. Puis Mel Tucker fait ça avec elle. Mais le bémol que j'ai dans cette histoire-là, c'est que la discussion téléphonique aurait duré pendant plus de 40 minutes. Je ne sais pas comment que le téléphone de Madame Tracy fonctionne, mais sur le mien, j'ai un bouton rouge pour arrêter un appel qui est désagréable. Donc, je trouve que c'est un drôle de timing. Après qu'on ait donné 95 millions de dollars à Mel Tucker en 2021, après une saison exceptionnelle, il connaît une saison très ordinaire en 2022. En 2023, on s'aligne pour avoir une saison très ordinaire encore une fois. Puis, boum! Un scandale sexuel, on peut congédier notre coach sans avoir à le payer, sans avoir à racheter son contrat. Donc, c'est des éléments à prendre en considération. Mel Tucker dénie toutes les allégations contre lui et dit qu'il va prendre des mesures légales contre l'université s'il est congédié. Je peux te le confirmer, il est suspendu sans paye. C'est une question de temps avant qu'il soit congédié. Je pense pas qu'on va le revoir dans le programme. Puis, ça va être à Mel Tucker de prouver son innocence par la suite pour tenter de récupérer une partie de son 95 millions de dollars.
Puis, au niveau des joueurs, l'impact que j'ai lu, là, je sais pas si tu peux confirmer, là, je vais pas te pitcher ça dans la face, mais si le coach est vraiment congédié pour inconduite sexuelle, donc sans salaire et tout le tralala, ça l'ouvre le portail des transferts pour les joueurs, quelque chose de même. Je ne sais pas c'est quoi.
Ça, c'est spécial. Puis, regarde, c'est nouveau le portail. Là, mais si ton coach est congédié avant un nombre X de parties, puis je pense que c'est dans le premier mois de la saison, tous les joueurs de ton équipe sont admissibles à transférer. Donc, ça pourrait faire très, très mal au programme. Donc, une des raisons pourquoi que je pense qu'il va être suspendu sans solde pour les trois prochaines semaines, sous enquête. Puis, à la venue du mois d'octobre, on va probablement annoncer son congédiement pour le remplacer. Même que Coach D'Antonio, l'ancien coach de Michigan State, serait revenu dans l'environnement de l'équipe là, pour essayer de garder les joueurs, pour essayer comme de resolidifier les choses. Mais disons que les choses n'augurent pas bien pour Mel Tucker. Puis, Michigan State, qui, comme j'ai dit tantôt, qui avait connu une très belle saison en 2021, ça va pas très bien pour eux. Ça devrait avoir un impact néfaste sur le programme pour probablement une ou deux années.
Bon, comme tu l'as dit, drôle de timing, drôle de mise en situation contexte surtout. Et de situation. Donc, on va suivre ça de proche pour vous. Si jamais il y a pour avoir un congédiement puis des transferts à l'infini, ça va être assez incroyable. Bon, c'est un petit segment nouvelle, mais c'était toute qu'une nouvelle. On va commencer ça tout de suite avec le segment recap parce qu'on en a beaucoup à dire sur plusieurs matchs. En tant que bon joueur, j'ai mis évidemment la fight song de l'Université du Texas pour ceux qui ne l'avaient pas reconnu. Comme vous avez vu passer, peut-être que vous ne l'avez pas vu si vous vivez en dessous d'une roche dans Rock Bottom avec, avec Bob l'éponge, mais le Crimson Tide de l'Alabama a baissé pavillon à la maison, puis là, ça met plein de choses en contexte, contre les Longhorns du Texas par la marque de 34-24 samedi soir. C'était un rematch qui, l'année passée, s'était décidé là, à la toute fin, dans les tout derniers instants du match. On a le droit à un duel qui a été quand même assez serré. Pour mettre en contexte cette victoire-là, c'est la première fois depuis 1969 que Texas gagne contre une équipe du top 3. La question à savoir, est-ce qu'Alabama méritait vraiment d'être 3, ça c'est une autre chose, mais toutes mes félicitations à Martin Plow qui, son équipe, a gagné pour la première fois contre une équipe du top 3 depuis 1969. Je doute même que tu étais né à ce moment-là, Martin. Et ça a mis un terme à une séance en fait de 43 matchs gagnés par Bama contre des équipes qui n'étaient pas de la SEC à domicile. Donc ça faisait 43 matchs consécutifs qu'à la maison, Bama gagnait quand ce n'était pas contre des équipes de la SEC. Puis ça nous a inspiré un sujet pour plus tard à propos de cette fameuse SEC-là pour cette année. Donc, évidemment, c'est une bonne audition pour les futurs membres de la SEC Texas, cette victoire-là. C'est un duel qui s'est décidé plus vers la fin du match. Hein. Pour ceux qui l'ont écouté, en fait, ça a été quand même assez serré au début, même qu'il y a eu à peu près pas de points qui a été marqué dans les premiers instants du match. C'était un duel qui était plutôt défensif. Même, je pense qu'il n'y a eu aucun point qui a été marqué au troisième quart au complet de ce match-là. Donc, ça a été un duel qui a été vraiment serré. Par contre, Texas ont été capables de garder la pression tout le long du match sur le Crimson Tide, ce qui a permis à la longue, dans le fond, de les user. Puis avec un quatrième quart de 21 points, ils ont réussi à remporter ce match-là. Donc à un certain moment, c'était 16-13 pour Alabama. Alabama avait sa destinée entre les mains. Et bien évidemment, c'est pas ce qui s'est passé. Quinn Ewer, qui a connu une solide performance avec 3 passes de toucher pour au-dessus de 350 verges. Donc, c'est un peu la rédemption pour lui, hein, parce que il a été pitché dans la mêlée quand même assez rapidement l'année passée. Puis là, ben, on se posait des questions sur s'il y avait l'étoffe d'un gagnant, l'étoffe d'un champion.
Dans il s'était surtout blessé contre Alabama.
Oui, il s'était blessé contre Alabama. Mais là, ça nous a permis de voir ce qu'il était capable de faire. Puis, ben, on n'a pas été vraiment déçus par ce qu'il était capable de faire. Autre performance du match qui a attiré mon attention du côté de Texas, c'est vraiment le tight end Jatavion Sanders, un gros tight end numéro 0 qui a connu 5 réceptions pour 114 verges. Donc, vraiment beaucoup de gains. Il n'a pas eu de toucher, mais une longue passe, un mané de 50 verges qui a permis de positionner Texas en territoire offensif. Donc, c'était vraiment impressionnant de voir aller Quinn Ewers avec son tight end Sanders. De l'autre côté, Milroe, ça a été beaucoup plus laborieux. Ça n'a pas été très chic au niveau des passes. Là, il a été 14 en 27, donc il a à peine complété plus que 50% de ses passes. Un maigre 250 verges. C'est surtout lancé 2 interceptions. Il n'a pas été capable de protéger le ballon, ce qui a permis en fait à Texas de gagner la bataille, la fameuse bataille des revirements en fait. Ben, moi, ils n'ont pas été capables de créer de revirement. Ils n'ont pas été capables de concrétiser, en fait, sur les fumbles qu'ils ont créés. Ils ont créé 2 fumbles, mais ils n'ont jamais été capables de les récupérer, en fait. Donc, à ce moment-là, c'était un peu la marque de commerce de Bama depuis certaines années, de un gros toucher défensif, un gros revirement en zone offensive pour être capable de reprendre le ballon en position de marquer déjà. Donc, la défensive était capable de faire carburer cette équipe-là si l'offensive n'arrivait pas à produire. Mais là, dans ce cas-ci, ce qu'on se rend compte, c'est que Bama sont juste corrects at best. Là, t'sais. Donc, les gros problèmes aussi se sont passés au niveau des lignes de mêlée. Donc, Bama s'est vanté toute l'off-season qu'il allait être intransigeant dans les tranchées, qu'il allait être physique, qu'il allait être dominant, qu'il allait pouvoir piler dans la face de l'adversaire en bon français. Donc, gagner cette fameuse bataille-là pour être capable de prendre du rythme. Puis, au final, ils n'ont jamais été capables de faire ça. Ça n'a pas paru. La O-line a accordé 5 sacs du corps. Donc, Milroe, qui n'était pas vraiment en confiance dans sa pochette, s'est fait courir après toute la journée aussi. Les running backs, même chose. Aussitôt qu'ils recevaient le ballon, semblaient déjà être encerclés au niveau défensif là, par les Longhorns. Donc, c'était dur pour eux de prendre leur rythme et d'être capable de courir. Au total, ils ont couru pour 100 verges, là, toute l'équipe au complet. Au niveau défensif aussi, ben moi, j'ai questionné un peu à force de regarder le match à plusieurs reprises leur stratégie défensive. Parce qu'ils mettaient de la pression à 3. Puis ils n'ont jamais été capables de se rendre à Quinn Ewers parce qu'ils ont fait 0-5 dans ce match-là. Puis ils n'ont jamais amené de blitz des linebackers. Donc leur front 7, eux jouent une 34 en fait. Donc à 3, ils n'étaient pas capables de mettre de la pression. Puis on dirait que la stratégie, c'était pas de mettre plus de pression. Donc on n'amenait pas du support aux 3 D-line qui sont sur la ligne. On n'amenait pas de blitz. On n'essayait pas de mettre de la pression sur Quinn Ewers. Donc on n'a pas fait de sac du corps. Quinn Ewers a eu une soirée quand même assez facile, honnêtement, dans sa pochette. Donc je remets un peu en question, ça a été quoi le plan de match là, de Bama à ce niveau-là?
Voilà, moi, ce qui m'inquiète là, de Bama, c'est... Il y a des gens qui vont critiquer Milroe. Bama ont remporté plusieurs championnats nationaux avec des carrières très ordinaires. Je pense à Greg McElroy. Par la suite, j'oublie son nom, là. Mais il est maintenant marié avec Miss Alabama. Avant la séquence de Tua, puis Jalen Hurts, puis Mac Jones, puis Bryce Young, Alabama n'avait pas les meilleurs carrières, mais il y avait les meilleurs playmakers sur le terrain. Puis Alabama ne semble plus avoir les gros receveurs, les gros porteurs de ballon qui faisaient cette différence-là. Puis moi, c'est ça qui m'inquiète un peu pour le futur de Bama, malgré le fait qu'ils ont eu la meilleure classe de recrutement de leur histoire en 2022-2023. C'est à se poser des questions, Faf. Il va se passer quoi avec Bama? Puis c'est sûr que tu ne congédieras pas Nick Saban, mais tu t'en vas où? Je pense que Bama a encore une bonne équipe, mais ça va être intéressant quand même de voir. Là. Puis il y a John Kerry qui amène un bon point. Là. Il parle de ses ex-coordinateurs, s'il a perdu la face en perdant contre un ex-coordinateur de l'équipe. Mais je pense que le coordinateur offensif et défensif d'Alabama ont à faire beaucoup là, par rapport aux récents insuccès de l'équipe. Le manque de constance, je pense que ça a un impact.
Oui, parce qu'on a eu la discussion tout souvent ensemble. On parlait de Deion Sanders justement, puis on disait « Ah, Deion Sanders, c'est un bon coach parce qu'il fait gagner son équipe. » Non, Deion Sanders, il a un aura, il a un charisme qui attire des joueurs. Les joueurs veulent venir pour lui. Donc, ça permet de renflouer les coffres de tes joueurs. Moi, ce qui m'a le plus inquiété un peu au niveau, puis je pense pas que Saban a perdu nécessairement cet aura-là. Il y a quand même des bons joueurs, mais c'est juste que historiquement, pour être capable de gagner contre Alabama, la majorité de ça finissait sur genre un retour de beauté en fin de match ou un field goal en fin de match dans les matchs qui étaient le moindrement serrés contre Bama. Fallait que l'équipe adverse commette quasiment un miracle à la toute fin du match pour être capable de gagner ça. Ou sinon, il fallait un match parfait pour gagner contre le Crimson Tide. Puis, en fin de semaine, ce qu'on a vu, c'est que ben, Texas ont juste imposé leur volonté. Ils ont juste fait ce qu'ils voulaient. Ils ont dominé sur toutes les facettes du jeu. Défensivement, ils ont été dominants. Ils ont été capables de vraiment dominer cette équipe-là. Le match a été somme toute serré. Ça a fini 34 à 24. Sauf que 21 points au quatrième quart, c'est là que ça comptait le plus. On parle souvent des différents objectifs qu'une équipe doit se mettre en place pour être capable de gagner des matchs. Puis même moi, quand je coachais, mon fer de lance, c'était de dire qu'il faut qu'on gagne le quatrième quart. Si je gagne le quatrième quart à chaque game, je me donne une chance de gagner ce match-là. Mais là, à ce moment-ci, Texas, quand ça comptait, quand la game était on the line, quand ils perdaient 16 à 13, parce qu'à un moment dans le match, ils perdaient 16 à 13, ben, ils ont été capables de gagner ce fameux quatrième match-là. Ils ont été capables d'imposer leur volonté, de dominer, de créer les choses, de créer l'étincelle qui leur permettait d'être meilleur qu'Alabama. Donc, ça a été une victoire plain and simple. Ça n'a pas été un miracle. Ça n'a pas été quelque chose qu'on ne s'attendait pas. Ça a été vraiment juste une imposition de sa volonté. Puis Bama n'avait pas de réponse. Il n'était pas meilleur sur la O-line contre la D-line. Il n'y avait pas des meilleurs DB que les receveurs qui affrontaient. Il n'y avait pas un meilleur plan au niveau du coaching. Donc, ça amène beaucoup de questions. Comme tu disais, la fameuse dynastie de Bama, est-ce qu'elle est terminée? Je ne sais pas si elle est terminée, mais il y a tellement de points qui sont potentiellement améliorables. Mais la question, c'est de savoir comment ça se fait qu'en plein milieu de la game, comme j'expliquais tantôt, la D-line ou la défensive, c'est pas mal blitzé comme des cochons. Tu as la game, ça aligne, puis tu continues à mettre de la pression à trois, puis tu te rappelles à Quinn Ewers. Pourquoi tu ne changes pas ton plan de match? Fait que tu parlais des coordonnateurs tantôt. Ouais, est-ce qu'ils ont fait le meilleur qu'ils étaient capables de faire au point de vue du plan de match en tant que tel? Puis ça revient pas à Saban nécessairement. C'est pas à Saban de dire, hey, des coordonnateurs défensifs, ton plan de match, ils sucent la merde. Ben, du moins, pas pendant la game. Là, après coup, ils vont regarder du tape comme on fait nous autres, puis ils vont dire, ça n'a pas de sens. T'sais. Donc, bref, l'histoire est longue. On pourra en parler longtemps. Moi, personnellement, ce que j'ai vu un Crimson Tide qui ne méritait pas d'être troisième au pays, puis potentiellement une équipe du Texas qui méritait d'être plus haut que 11e au pays. Donc, à voir le résultat du match, ce que je me dis, c'est peut-être juste que le top 25 n'était pas tout à fait tweaké à la hauteur. Peut-être que Bama mérite plus d'être la 10e meilleure équipe au pays présentement, puis peut-être que le Texas mérite plus d'être la 5e meilleure équipe au pays présentement. Il y a du monde qui s'affole aussi en disant « Ah, ben tu sais, Texas, là, c'est minimalement une équipe du top 4. » Je pense pas qu'en battant Bama, qui était troisième, mérite nécessairement d'aller troisième. En tout respect, c'est une bonne équipe. Ils ont une bonne performance. La question, c'est est-ce qu'ils vont être capables de garder cette pace-là toute l'année pour être capables de se positionner dans le top 4? On en parlera plus tard. Mais bref, c'est un peu ça, mon résumé. Wallet, de ton côté, si tu veux bien parler de Notre-Dame, 10e au pays, à l'époque, qui ont gagné ça 45 à 24 contre NC State.
Yes, écoute, ça a été un match un peu, pas plate, mais il y a eu un délai d'environ 2h30, 3h à cause de la pluie. Donc, après avoir joué là, un petit peu moins qu'un quart, beaucoup trop de pluie, on arrête le match. Notre-Dame semblait en belle position en début de match, puis on disait, ah, est-ce qu'ils vont revenir affamés sur le terrain? Puis, ouais, ils sont revenus, puis ils ont terminé le match en beauté, spécialement avec 21 points au quatrième quart, qui a fait la différence dans ce match-là. Sans surprise, Faf, on le dit souvent, mais vous allez nous entendre le dire souvent cette année, Sam Hartman, connaît une autre belle sortie, près de 300 verges aériennes, 4 touchés. Par contre, le joueur que j'ai besoin de vous parler, puis la raison pourquoi j'ai besoin de vous en parler, parce qu'il semblerait la semaine dernière que j'aurais dit de quoi. Il y a quelqu'un qui est venu me voir sur Twitter X, puis qui m'a dit « Hey, Notre-Dame, on a une bonne attaque au sol. On a Audric estimé dans notre équipe. » Puis je ne me rappelle pas d'avoir parlé en mal. Je m'excuse si je l'ai fait, mais estimé termine le match avec 14 courses pour 134 verges, ce qui est une moyenne de près de 10 verges par course, pour deux majeurs. Grosse performance pour estimé. Puis aussi, faut mentionner la défensive de Notre-Dame, qui est selon moi leur force. C'est une équipe qui est défensive, mais que cette année, on semble avoir des bons joueurs, des bons éléments du côté offensif du ballon pour rivaliser avec les plus grosses équipes. On connaît un match un petit peu plus difficile contre NC State, mais il fallait s'y en attendre. Il affrontait quand même Brandon Armstrong, qui est un bon meneur de jeu pour le Wolfpack. Donc, grosse victoire sur la route pour Notre Dame. Sont maintenant 3-0 depuis le début de la saison. NC State était leur premier vrai test. Le vrai gros test pour eux, c'est dans deux semaines, alors que Notre Dame affronte les Buckeyes de Ohio State. Donc, chapeau à Notre Dame qui continue de faire de belles choses en ce début de saison.
Yes. Autre match, je te laisse le micro, Wallet. Colorado, nouvelle équipe, l'Avalanche, non, je veux dire, les Buffalo de Colorado ont gagné ça par la marque de 34 à 14 contre Nebraska. Nebraska qui n'est pas une équipe dans le top 25, mais c'est quand même pas des pieds de céleri.
Non, puis c'est ça qui est intéressant à faire, parce que la semaine dernière, quand on s'est parlé, tu t'es un peu fâché là, contre le hype derrière Colorado, puis honnêtement... Avant le podcast, je ne m'attendais pas à ce que tu fasses ça, puis tes explications faisaient du sens pour moi. On les hypait peut-être beaucoup trop, mais là, il faut commencer à réaliser une chose. On le dit souvent, Vegas devrait faire le classement, parce que Vegas, c'est les pros pour dire « cette équipe-là est meilleure que celle-là, sont favoris par tel nombre de points, donc cette équipe-là devrait finir première, celle-là deuxième, troisième, quatrième, cinquième, blablabla. » La semaine 1, Vegas négligeait Colorado par plus de 3 touchés contre TCU. La semaine dernière, il favorisait Colorado pour gagner par seulement 3 points, puis il remporte par 22 points ce match-là. Donc, il faut prendre Colorado au sérieux. Est-ce qu'ils vont finir avec une saison parfaite? Absolument pas, mais c'est une équipe qui peut brouiller des cartes dans la Pac-12. Cette semaine, ça devrait être un match bonbon pour eux. Là, on n'en parlera pas vraiment, mais ils affrontent Colorado State, les Rams, qui ne sont pas une grosse équipe. Mais si je me rappelle bien, c'est dans deux semaines qu'eux aussi se déplacent à Eugene, en Oregon, pour affronter les Ducks. Donc, attendez-vous à ce qu'on parle beaucoup de Colorado. Puis, on est obligé d'en parler en bien parce que c'est une autre grosse performance, spécialement au niveau de l'attaque au sol. Shedder Sander a maintenant au-delà de 900 verges en deux matchs pour 7 touchés. L'attaque au sol, par contre, tu n'avais parlé la semaine dernière.
Ça, je m'en allais dire ça.
L'attaque au sol, ça fait pitié. 58 verges totales dans ce match-là pour l'attaque au sol. C'est sûr que ça va les rattraper, mais... ils montrent quand même de belles choses. La défensive du côté de Colorado s'est levée dans ce match-là en accordant moins de 300 verges combinées. Chapeau au coordinateur offensif Sean Lewis qui a quitté son poste d'instructeur-chef à Kent State pour joindre les rangs de Colorado comme coordinateur offensif. Mais comme on le dit, on le répète, oui, c'est beau voir Shedder Sanders, mais il faut vraiment voir une amélioration au niveau de l'attaque au sol. Un joueur qu'on n'a pas parlé la semaine dernière, puis il faut que j'en parle, c'est Xavier Weaver, le receveur de passe là, des Buffaloes, qui termine le match avec 170 verges et un touché. Donc, grosse performance pour lui là, dans ce duel-là. Un duel quand même classique. Le Colorado-Nebraska, deux équipes là, qui sont rivaux depuis longtemps. Deux équipes qui, à l'époque, évoluaient dans la Big 12. C'est toujours le fun là, de voir ces deux logos-là, un à côté de l'autre, sur un scoreboard, un samedi.
Yes. Il y a Martin qui dit les fans de Colorado qui rushent le terrain après une victoire contre un club pas ranké. Ils n'ont pas beaucoup gagné là-bas. Effectivement, l'année passée, ils n'ont même pas eu ça, deux victoires à se mettre sous la dent. Donc, c'est sûr et certain que là-bas, ils sont allumés bien raides. Tantôt, tu l'as dit, j'avais un peu essayé de dimmer le hype sur Colorado. Puis, je suis un peu triste, en fait, de la réalité parce que Colorado, jusqu'à la fin de la saison, ils auront. Je suis pas triste, excuse-moi, je suis allumé parce qu'ils vont avoir la chance de prouver si le hype est real ou pas avec les duels contre Oregon, USC, comme on a déjà parlé, UCLA, Oregon State plus tard, finir ça la saison avec Washington State puis Utah. On va avoir la chance plus tard de prouver si c'était for real, cette équipe-là. Par contre, les grosses questions que j'ai présentement, les grosses interrogations, on a parlé du jeu au sol. Quel jeu au sol? Présentement, Colorado, dans la game au complet, parce que Sanders s'est fait saquer 8 fois. Il s'est fait saquer 8 fois. Moi, présentement, je donne tout le crédit à Shedder parce qu'il a été capable d'être 31 à 42, lancé pour près de 400 verges, même en se faisant taper sa gueule 8 fois. Puis ça veut dire qu'il s'est probablement fait frapper à la limite de sa passe une couple de fois. Il s'est probablement fait press, hurry, la majorité, tu sais, plusieurs fois.
Des jeux.
Je sais que dans la NCAA, une course pour pet, c'est considéré comme un sac. Donc, il faut garder ça en tête. Mais ça reste que c'est un coup que le gars a mangé. Il s'est fait courir après. Il a été drag au sol. C'est un sac pur et dur. Donc, en termes de verges nettes, l'équipe a 58 verges de course. Puis, 8 sacs accordés. Donc, à la fin de la journée, je pense que dans une game contre USC, Colorado ne pourra pas faire ça puis espérer là, que Sanders lance soudainement pour 800 verges pour gagner la game. Là. Ses statistiques sont impressionnantes. Est-ce que ça fait de lui quelqu'un qu'on va parler dans le Heisman? Fort probablement, parce que le Heisman, c'est le concept du MVP, puis ce gars-là, présentement, fait gagner son équipe. Chapeau. Puis comme je dis, j'enlève rien à ce qui se passe de bien à Colorado. Ce que je me questionne, c'est quand ça va backlash, quand ça va péter, à quel point ça va faire mal, c'est peut-être là que la ballonne va dégonfler. Puis ça, plus que présentement, on est en train de la monter haut, cette ballonne-là, là, plus que quand le downfall va être assez important. Fait que c'est tout ce que je dis. C'est bien, c'est cool, je trouve ça impressionnant de voir ce qui se passe là-bas. Puis ce qui m'impressionne le plus, c'est de faire un genre de yati avec tous les joueurs qui viennent d'un peu partout pour être capable d'avoir une combinaison gagnante présentement. Bravo. Ma question, c'est, ça va être quoi la suite des choses? Puis c'est ça qui me fait un petit peu plus peur. Je vais continuer le recap avec la game Oregon contre Texas Tech. Pas que je vais changer d'équipe favorite, juste pour pas inquiéter les fans. Mon équipe favorite a été et sera toujours Texas. Oui, aucun mot. Donc, Oregon, 13e au pays, qui remporte ça par la marque de 38 à 30 contre Texas Tech, qui était on rank. Évidemment, ça a pris une performance flamboyante de Bo Nix, un autre contender Wiseman. Ça fait à peu près 7 ans que Wallet nous casse les oreilles que Bo Nix est bon. À l'époque, il était pour Auburn ou je ne sais pas trop quelle équipe. Bo Nix a connu une performance quand même assez impressionnante. 32 à 44, plus de 350 verges, 2 passes de toucher, aucune interception. Mais ce qui a vraiment allumé, qui a été la bougie d'allumage, surtout à la deuxième demi, en fait, radio quatrième quart, Oregon avait besoin de performance, puis Bo Nix s'est mis à courir avec ses jambes. Ça l'a beaucoup aidé. Ça a été lui le meilleur porteur de ballon de son équipe avec 46 verges au total. Donc, au final, Oregon n'ont pas chien d'ampelle en bon français. Je cherchais un terme plus chic, mais j'en ai pas trouvé. Donc, ils n'ont pas choqué dans un moment où c'était crucial. Ils ont même réussi à connaître un quatrième quart assez impressionnant, 20 points contre 3 points seulement. Donc, ça, c'est tout à leur honneur. Ça aurait été vraiment, ça leur aurait vraiment fait mal de perdre, en fait, contre les Red Raiders. Du niveau des Red Raiders, Tyler Schnutt, je ne sais pas comment on prononce son nom, le corps arrière, a aussi connu une performance en deux temps. A connu presque 300 verges par la passe. Vraiment cool. 3 passes de toucher. Nice. Mais a commis 3 interceptions. Puis c'est vraiment ça qui a été un peu le côté fort là, du côté de Oregon. Être capable de faire des revirements, justement. Ils ont créé un fumble, justement, de ce fameux Tyler So. Donc, lui, il est directement responsable de 4 turnovers de son équipe. C'est vraiment ce qui a coulé Texas en moment important. Les Ducks d'Oregon, présentement, étaient... Il était 15e au pays quand on a fait l'analyse du top 25. Puis je l'ai dit, c'est bizarre parce que personne ne les voit meilleurs que ça, mais personne ne les voit en bas de ça. Tout le monde à peu près les voyait entre 13 et 15e. Malgré qu'ils sont 2-0 présentement, malgré qu'ils ont eu une victoire super écrasante la première semaine, aujourd'hui, dans le top 25, ils se retrouvent 13e. Donc, personne ne donne de l'amour aux Ducks. Tout le monde a peur, d'après moi, qu'ils choquent à venir quelque part. Il y a quelque chose qui ne fait pas de sens avec les Oregon Ducks. Donc, c'est ce qui résume un peu ce match-là. L'histoire a été vraiment...
Arthur, dans le chat, qui dit que Texas Tech ne fera pas la finale, mais qu'ils vont potentiellement foutre le bordel dans la conférence. Fais attention, Martin, parce que les matchs non-conférence contre Wyoming puis Oregon ne comptent pas au total. Ben, potentiellement, si c'est un tiebreaker, mais s'ils run the table puis ils remportent tous leurs matchs dans la victoire, ou assez de matchs, ils peuvent quand même faire la finale malgré leurs deux défaites là, contre des équipes hors conférence.
Bonne analyse. Donc, ça fait le tour de ce match-là pour Oregon. De ton côté, Wallet, est-ce que tu peux me parler de Wazoo qui allait rendre visite à Wisconsin? Un upset, mesdames et messieurs. Wazoo qui a remporté ça par la marque de 31-22 au Wisconsin.
Non, correction, Faf. Le match était à Pullman, à Washington. J'avais écrit dans mes notes qu'il fallait que je me fâche. Honnêtement, je suis juste triste. C'est triste de voir Wazoo, une équipe qui... Une fois aux 4-5 ans, Wazoo a une équipe qui peut justement causer des upsets comme ça, battre des équipes du top 25. Puis malheureusement, dans quelques mois, ils vont être orphelins de conférence. Puis c'est une équipe qui, honnêtement, Washington State fit très, très, très bien dans la Big Ten West. C'est une équipe qui pourrait rivaliser avec Nebraska, qui pourrait rivaliser avec Wisconsin, qui pourrait rivaliser avec Iowa. Puis là, tu rajoutes à ça les équipes de la côte ouest comme Washington, Oregon, puis les deux équipes de Los Angeles. Washington State peut battre ces équipes-là. Honnêtement, je suis vraiment triste. C'est probablement la chose que j'haïs le plus dans le college football, c'est le fait que Washington State ne sera plus dans une conférence d'importance puis qu'on ne verra plus des moments historiques comme ça. Dans cette belle victoire, Faf, Cam Ward, un carrière qu'on ne parle pas beaucoup, mais qui a un carrière qui est extrêmement intéressant à suivre, termine le match avec 250 verges totales combinées là, au sol et de façon aérienne. Tout ça pour deux visites dans la zone des buts. Malgré le score de 31-22, Faf, tu n'as probablement pas regardé le match parce que tu n'es pas un loser comme moi qui perd son temps avec des matchs comme ça. Ça a été un match qui était défensif. La défensive de Washington State ont fait la différence dans ce match-là. Un touché durant le match là, qui a fait la différence. Puis, c'est ça, grosse performance en défensive de Sam Lockett, le troisième. Le demi-défensif de quatrième année termine le match avec 13 plaqués. C'est vraiment la différence dans le duel. Je pense que Wisconsin, ils vont être sur une pente montante. Tanner Mordecai n'a pas connu un mauvais match, mais on le savait, Luke Fickell, le nouvel instructeur-chef pour cette équipe-là, on se doit de rebâtir des fondations pour avoir une maison qui est plus solide. Donc, Wisconsin qui l'échappe sur la route. Je continue de penser que Wisconsin, c'est la meilleure équipe de la Big Ten West.
Yes. Autre match qui a été fort intéressant, ça a été le match de Ole Miss contre Tulane. Un match très serré, somme toute. Ole Miss qui était 20e, qui ont remporté ça par la marque de 37-20 sur Tulane. Une autre équipe de la SEC qui perd, là. Raconte-moi ce match-là.
Une équipe de la SEC qui gagne, fais attention. Mais match difficile pour Ole Miss, malgré le fait là, que quand on regarde juste le score, on se dit 37-20, ils ont gagné par 17 points, ça a dû être facile. Non, ça n'a pas été facile. Ole Miss qui se sauve avec cette victoire-là en marquant 20 points dans les derniers instants du match, incluant un touché défensif. Ole Miss en défensive n'ont pas montré de belles choses dans ce match-là, sont incapables de capitaliser sur le fait que Michael Pratt, le carrière partant de Tulane, était blessé. Puis ce qui m'inquiète vraiment pour Ole Miss, c'est l'attaque au sol qui est inexistante. Ce qui est vraiment étrange quand tu considères la présence de Quinshon Judkins qui court pour seulement 48 verges dans ce match-là. Chapeau à Jackson Dart qui a quand même connu une belle sortie. Une chose qu'on n'a jamais parlé, Faf, parce qu'on parle pas beaucoup des transfer portals, puis on fait pas naturellement le tour de toutes les équipes parce qu'on fait pas du podcasting à l'année. Spencer Sanders était le carrière partant à Oklahoma State l'an dernier. C'est un des bons carrières au college football. Puis pour une raison que j'ignore, il a quitté Oklahoma State pour joindre Ole Miss. Il est deuxième violon avec cette équipe-là. J'ai aucune idée pourquoi il a fait ce move-là. C'est pas un bon move de carrière. Je ne sais pas s'il va se demander d'avoir un red shirt pour éventuellement retransférer ailleurs, mais Jackson Dart semble être le meneur de jeu principal de cette équipe-là, puis Spencer Sanders qui prend une mauvaise décision de business pour sa carrière.
Yes, on a Jacob qui vient de se joindre à nous qui dit j'ouvre mon écran puis je vois Faf avec une casquette de Texas. Est-ce que ça cesse de nous surprendre? Puis il me demande si j'ai changé d'équipe. Non, j'ai jamais changé d'équipe. J'ai toujours pris pour les Texas Longhorn. OK, come up, let's go! Ouais, c'est ça. Donc, pour continuer le segment recap, en fait, je vais vous parler de... je vais le retrouver.
North Carolina.
Septième au pays qui ont rapporté ça par la marque de 40 à 34. Tout ça en deuxième overtime. Ça leur a pris deux overtime pour être capable de remporter ce match-là. Donc, évidemment, c'est pas à ce qu'on s'attendait du côté de Drake May. Je l'ai dit au début, pour moi, ça a été un contender Wiseman. Puis, ben, je vois que je me suis peut-être trompé à ce niveau-là. Connu une performance correcte, a réussi à scorer en courant, en fait, au deuxième overtime pour être capable de faire remporter son équipe. Mais je pensais pas qu'il y aurait de la difficulté comme ça à gagner contre Appalachian State. Du côté de Joe Aguilar, 22 en 43, donc pas beaucoup de complétion. Ça a été une performance assez difficile de son côté, mais les Mountaineers ont réussi à courir pour 200 verges. En contrepartie, North Carolina a couru pour 300 verges. Donc, le match a été vraiment splitté en deux temps, là, principalement. Donc, comme j'expliquais, les Mountaineers ont produit plus par la passe que North Carolina, ce qu'on s'attendait pas nécessairement parce qu'avec Drake May aux commandes, on s'attendait à ce qu'il y ait plus de passes à ce niveau-là. Mais ça a fini par être les Mountaineers qui ont passé pour plus de verges nettes. Au contraire, par contre, North Carolina ont vraiment réussi à courir, à imposer leur volonté par la course. Évidemment, ça a vraiment pris des gros jeux en deuxième demi pour que North Carolina égalise la marque, amène ça en prolongation pour finir par gagner en prolongation. Donc, ça n'a pas été une performance facile de leur côté. Je ne sais pas ce qui réserve le futur pour eux là, avec les différents match-ups qui s'en viennent. Ils n'ont pas de grosses équipes qui s'en viennent, sauf peut-être Miami. On va en parler un petit peu plus tard. Puis, Dukes, là, puis vers la fin de la saison, c'est les deux prochaines équipes qui sont sur leur l'horaire qui vont potentiellement qui sont potentiellement classées là, pour le moment du moins. Donc, c'est pas un début de saison très facile pour North Carolina. Évidemment, on s'attend à ce que Drake May en fasse plus là, pour cette équipe-là. C'est ça qui serait la clé pour un succès au niveau des Tar Heels de la Caroline du Nord. Wallet, rapidement, Michigan remporte ça 35 à 7. Et vas-y, là. Puis vas-y avec ça, là, en premier, contre UM.
Mais dans le fond, en gros, là, c'est la raison que je vais parler de ces deux matchs-là ensemble, Faf, c'est comme tu viens de dire, Michigan a remporté un match 35 à 7 contre l'Université de Las Vegas. Pendant ce temps-là, Ohio State remporte un match 35 à 7, donc le même score contre Youngstown State. Puis la raison que je veux en parler, c'est que notre ami Dion, puis les fans de Ohio State sur Internet, sont en sacrement. C'est comment, c'est la fin du monde. Kyle McCord est pas bon, l'équipe a pas d'offensive, si puis ça. Vos plus gros rivaux, Michigan, qui ont un horaire vraiment facile, vraiment, vraiment facile, là, probablement la plus facile après Georgia, eux non plus sont pas hyper impressionnants. Donc, Dion, je vais faire du ASMR. Respire par le nez. Il reste encore beaucoup de football pour Ohio State. Puis Michigan, même son cloche, pas vraiment. J'ai pas de doute sur les capacités de Michigan. Je pense que les équipes se gardent du jus pour plus tard dans la saison. C'est le petit clin d'œil que je voulais faire de ces deux duels-là.
All right. De mon côté, un dernier match que j'aimerais parler, c'est Miami qui ont gagné ça par la marque de 48 à 33. Je vais en parler parce que Texas A&M était 23e au pays. Miami était unranked. Donc, Miami, ça leur fait deux victoires depuis le début de la saison. Après leur victoire contre Miami Ho, on se disait, bon, OK, 38 à 3, ça va être une game facile. Mais là, 48 à 33 contre Texas A&M. Premièrement, c'est un upset, fait que ça m'allume les upsets, vous le savez. C'est pour ça que j'ai toujours été un fan de Texas, puis je suis vraiment content de cette victoire-là, parce que ça aussi, ça a été un upset. Mais en fait, ce qui est plus surprenant présentement, c'est qu'il y a deux équipes de la Floride qui sont relevant en même temps. Florida State plus Miami qui sont relevant en même temps dans un début de saison qui est un peu chaotique au niveau de la SEC. Donc, cette saison-là devient de plus en plus intéressante, mais pas pour les raisons nécessairement qu'on s'attendait au début de l'année. On s'attendait à ce que SEC domine, que tout aille bien, que ça soit vraiment tout bien aligné. Puis là, ben, il y a des équipes qu'on ne s'attend pas, qui dominent, qui gagnent, puis qui sont capables d'imposer leur volonté. Ça a été un sacré match, là, honnêtement, là, la game de Miami contre Texas A&M au niveau des scores. Attendez deux secondes, là, j'avais vu la statistique. Ouais, c'est ça, Tyler Van Dyke a connu une solide performance, 21-30 pour 375 verges, puis 5 passes de toucher. Donc, Miami ont été vraiment dominants à ce niveau-là, un peu moins au niveau du sol, mais au niveau des receveurs aussi, il y a Xavier Restrepo. Je trippais sur son nom, fait que je voulais juste le nommer. C'est sûr que si Zion était là, il m'aurait corrigé. Mais bref, 126 verges, aucun touché, mais quand même 126 verges là, par de réception. Donc, ça a été vraiment une performance aérienne là, dominante pour Miami. Puis, ça peut peut-être leur donner la chance de réussir à avoir un... Ils n'ont pas trop de gros challenges qui s'en viennent vers eux au courant de la saison. Donc, ça peut être intéressant de voir où est-ce que Miami va se situer dans la ACC à la fin là, de l'année. À savoir s'ils ont une shot peut-être même sur la conférence, là, le championnat de conférence. Donc... Voilà, deux équipes de Floride qui sont relevant en même temps. Il va falloir que je change mon itinéraire de voyage pour aller en Floride regarder des games à NCAA pendant la saison. On va continuer ça avec le segment préféré des auditeurs, mon segment préféré, le segment préféré du chef, du gérant et tout le kit, le segment Out of the Box. Yes, segment out of the box cette semaine. On se pose une grosse question, puis c'est quand même intéressant. J'en ai même un peu glissé un mot là, avec la défaite de Texas A&M. Est-ce que c'est la fin de la dominance de la SEC, Wallet? Résumé, Florida perd de façon humiliante contre Utah à la semaine 1. LSU perd de façon convaincante contre Florida State aussi à la semaine 1. South Carolina, qui n'a jamais été dans le coup, perd contre North Carolina à la semaine 1. Bama perd à la maison contre Texas cette semaine. Tennessee a toutes les misères du monde contre Austin Peay. Une équipe qu'on ne connaît même pas et qu'on se torche. Tennessee a eu de la misère cette semaine à gagner contre eux. On n'en a pas parlé parce que c'était gênant. Ole Miss, on a eu de la misère à battre Tulane cette semaine. Texas A&M ont perdu contre Miami, comme je viens justement d'en parler. Wake Forest a défait Vanderbilt. On sait que Vanderbilt, ce n'est pas une puissance dans la SEC, mais on s'attendait quand même à ce qu'ils gagnent contre Wake Forest. Bout de vierge. Missouri a de la difficulté contre Middle Tennessee. Fucking Middle Tennessee, là. Je sais même pas c'est où le milieu du Tennessee. Puis je sais même encore moins qu'il y avait une équipe de football. Ils ont failli perdre cette semaine. Même son cloche pour Auburn qui sauve en fin de match contre Cal de la Pac-12 cette semaine. Finalement, Mississippi State a eu besoin de la prolongation pour battre Arizona à la semaine 2. Autre équipe de la Pac-12. Wallet, parle-moi. Qu'est-ce qui se passe dans la meilleure conférence de l'univers?
Ouais, puis écoute, c'est dur, Faf, parce que tu sais, ben, toi, t'es un fan de la Big 12, mais tu vas être un fan de la SEC en 2024. Mais il y a Dion qui nous casse les oreilles puis qui nous parle. On parle souvent de notre group chat privé, mais les gars, on se texte le samedi pour avoir nos réactions à chaud. Puis là, Dion, il dit là, les gars, ça va faire. Là, je suis en nasty d'entendre le SEC versus the world. C'est pas la meilleure conférence. Puis, forcé d'admettre que Dion, il a probablement raison. Mais, étant donné qu'on aime l'histoire ici à Triple Option, il faut se rappeler que c'est une conférence qui est dominante depuis plus de 20 ans. Avant ça, par contre, dans les années 90, début des années 2000, des équipes comme Miami, Florida State, Nebraska, Michigan, Oklahoma, The Ohio State, même les Longhorns du Texas, puis les Trojans de USC, c'était des équipes qui étaient au sommet du sport, mais il faut se rappeler que c'est un sport qui est cyclique. Je veux juste penser à des équipes comme USC puis Miami, là, ça peut avoir l'air vraiment stupide qu'est-ce que je m'apprête à dire, là. Mais une des raisons pour que ces équipes-là étaient vraiment bonnes fin des années 90, début des années 2000, puis qui ont complètement chuté, c'est que les programmes, d'autres programmes comme Alabama, LSU, Florida, ont décidé de mettre beaucoup d'argent dans leur infrastructure en mettant des weight rooms qui sont complètement ridicules, en mettant des vestiaires qui sont futuristes. Puis des équipes comme Miami, des équipes comme USC se sont dit « Ah, on n'a pas besoin de ça, nous autres, on est les Trojans de USC, le monde veut venir jouer ici. » Ha! Not so fast. Non, le kid de 17 ans, il a envie d'aller dans le vestiaire futuriste. Il a envie d'aller dans la salle d'entraînement qui a 800 bench press puis 1800 squat rack. C'est ça que les kids voulaient. Puis comme que je dis, c'est cycliste. Là, c'est un cycle, puis c'est ça qu'on a vécu il y a de tout ça 15-20 ans. Là, on rentre dans un autre cycle, selon moi, avec le NIL, avec le transfer portal. Il va y avoir un ajustement qui va se faire. Puis, naturellement, il y a les séries à 12 équipes. Donc, tu as plus d'équipes qui ont une chance d'aller chercher le gâteau à la fin de la saison. Moi, je pense que ça, on va voir un réalignement, on va voir du changement. Puis au final, Faf, je pense que c'est bon pour le sport. C'est la première fois, notre podcast existe depuis quoi? C'est notre 5e saison pleine. Puis ça fait 5 ans que la SEC domine, puis la SEC dominait avant ça. La SEC va toujours rester une des plus grosses conférences, mais je pense que c'est important, c'est important pour la santé du sport qu'une équipe à Washington soit bonne, une équipe dans le sud de la Californie soit bonne, une équipe en Ohio, au Michigan, au Colorado, au Texas, en Arizona, que ces équipes-là aussi soient bonnes pour avoir une attention médiatique autre que juste les équipes de la Southeastern Conference. Une chose qu'il faut que je dise, par exemple, c'est que malgré le fait que la SEC est moins bonne, après ce que j'ai vu en 2 semaines et demie là, avec la semaine zéro, j'ai de la misère à voir un monde où les Bulldogs de Georgia ne seront pas en finale encore une fois cette année. Donc, oui, la SEC est peut-être moins bonne, mais la meilleure équipe au pays est potentiellement encore dans cette conférence-là. Mais comme que je viens de dire, je pense que pour la santé et le bien-être du sport, c'est une bonne chose.
Yes, bien, c'est sûr que, comme tu dis, c'est cyclique, on ne peut pas s'attendre à ce qu'on soit tout le temps dominant parce que sinon, ça serait plate, un peu comme si Bama gagnait année après année. Oh non, ça c'est triste qu'il gagne pas des points. On va continuer ça.
J'avais posé la question sur le bon vieux Twitter X. Ah, puis, oui. Ben, nos fans qui sont allumés, puis on aime ça quand on... Gênez-vous pas, les questions, les commentaires, les insultes, on va les lire. J'ai posé la question, est-ce que la SEC s'est terminée selon vous? Il y a le Champ Benji, fans des Gators de la Floride, qui nous dit que c'est vrai. Par la suite, on a Christian Raymond, qui semble être un petit nouveau, qui dit « Georgia demeure favori pour le titre et ont un calendrier facile. Alabama a un nouveau QB et malgré le talent exceptionnel, joue mal en défensive. Point d'interrogation, coaching. Il demeure une puissance nationale, mais je ne pense pas qu'il y aura 2 SEC en playoff cette année. » Quand même intéressant. Ma question, c'était une question en 2 volets. Est-ce que la SEC, c'est fini? Puis, qui est la meilleure conférence? John Caillé, qui semble... il est-tu dans le chat? Non, il n'est pas dans le chat, John Caillé, mais il a répondu en disant, évidemment, c'est la Pac-12. Ils ont 8 équipes dans le top 25, sans oublier le futur récipiendaire du Heisman, Bo Nix. On a notre ami Texas Longhorns France qui dit « Texas est au top. Cet avis est bien évidemment purement objectif et dénué de tout intérêt, comme pour laisser penser mon compte. C'est un fan des Texas, des Texans de Houston. » Par la suite, on a Christian Raymond qui revient et qui dit selon lui, la SEC demeure la plus forte, mais que selon lui, la Pac-12 ont aussi 3 bonnes équipes. Mais il ne faut pas prendre à la légère la Big 12 et la Pac-12. Jean-Michel Levasseur, depuis 2006, 13 championnats nationaux en 17 ans, dont les 4 derniers, Georgia seront favoris pour gagner cette année. Selon lui, la SEC est encore la meilleure. J'apprécie beaucoup Jean-Michel Levasseur. Il y a Martin Plot qui semble être toujours dans le chat aussi. C'est vrai que plusieurs programmes qui ont été dominants ne sont plus très menaçants. Florida et Auburn, par exemple. Je crois que c'est quand même la meilleure conférence, spécialement avec l'ajout l'an prochain de OU qui est Oklahoma et Texas. Donc, c'est un bon point que Martin amène. Avec le réalignement de conférence, la SEC et la Big Ten vont être vraiment dans une classe à part. Puis je pense que c'est ça qui va faire. Les conférences vont être 1A, 1B à chaque année. Puis une fois de temps en temps, on va espérer que la Big 12 vont nous donner du bon football. La ACC, on dirait que j'en doute, mais bon. C'est ce qui résume les opinions du public. Merci encore une fois pour vos commentaires. Pardon.
Yes, bien apprécié. Excuse-moi, je n'avais pas vu la petite link dans le PC. On a un autre petit segment historique cette semaine. On va y aller rapidement avec une petite histoire pour les amis à la maison. On en apprend toujours avec le prof BW Wallet à propos de l'histoire. On profite de son knowledge parce que c'est un fan depuis... plus de 25 ans. Donc, on passe à tout de suite.
«
Yes. Donc, Wallet, parle deux des équipes qui ont connu les meilleures fins de semaine. Ça a été Texas et Notre-Dame. Dans un premier temps, parle-moi du fameux Hook'em Horns du Texas. C'est quoi? C'est quoi? Comment ils disent? Hook'em Horns? C'est comment qu'ils le disent, là?
Ben, c'est Hook'em puis Hook'em Horns.
Horns de Texas. J'explique. Parle-moi de ça. Là.
Ouais, mais je t'explique pourquoi c'est Hook'em puis que Hook'em Horns est venu par la suite un peu avec les horns qui... ce que tu retrouves sur la tête d'un bœuf. En 1955, l'équipe était mauvaise, l'équipe connaissait des difficultés, puis le Yale Leader, donc les équipes souvent, là, ils ont des pep rallies la veille des matchs, puis il y a un étudiant qui se fait nommer le Yale Leader qui lui part les champs. Donc le Yale Leader et son équipe ont réalisé que lorsque tu fais un signe comme ça avec tes doigts, puis qu'il y a de l'ombre derrière toi, je suis capable de le faire, pas tout à fait, ça fait comme une tête de bœuf. Puis il a décidé le lendemain d'amener ça au pep rally de l'université. Puis il faut se rappeler qu'à l'époque, le cri de Texas A&M, qui était à l'époque leur plus grand rivaux, était Gig'em. Donc on s'est dit, nous on va amener notre signe comme ça, puis on va dire Hook'em pour rivaliser avec les Aggies de Texas A&M. La semaine suivante, c'est sorti. Boom, le reste est parti de l'histoire. Puis comme je te dis, le horns, c'est vraiment parce que c'est le Hook'em. Donc, tu t'accroches aux horns sur la tête du baf.
All right. Ben, c'est bien. Merci pour ça. Merci de m'éduquer sur l'équipe que je déteste le plus à partir de maintenant. Une chose que j'aime bien dans la NCAA, c'est les terrains qui ont des petits signes de tradition qu'on ne connaît pas nécessairement. Parle-moi de la zone de but de Notre-Dame qui compte. J'ai remarqué ça, c'est pas partout qu'ils ont ça. Il y a comme des barres diagonales dans le end zone, comme pour identifier, ben ça c'est le end zone. T'sais. Je pensais que c'était juste pour ça, mais il y a 9 barres précis qui sont en angle à Notre-Dame, puis il y a une raison à ça. C'est pas juste décoratif. Là.
Non, effectivement, puis c'est assez simple. Dans chaque zone des buts, il y a 9 barres pour un total de 18 sur le terrain. Chacune des lignes est dans un angle de 42 degrés. Étrange, pas vraiment. Roulement de tambour, tu colles le 18, le 42, combiné, ça fait 18-42, l'année de la fondation de l'école de Notre-Dame. Donc, c'est vraiment poussé là, quand même, mais c'est quand même un beau petit...
C'est une inspiration, ça, ou c'est vrai?
Non, c'est a fact, Jack. L'école a été fondée en 1842, puis je ne sais pas qui a eu cette idée-là. L'histoire ne le dit pas, mais c'est la raison pour laquelle il y a 9 lignes dans la zone des buts en angle de 42 degrés. C'est vraiment niché comme information, mais c'est quand même intéressant parce que c'est une des rares écoles là, qui n'ont aucun logo ou même de couleur là, dans leur zone des buts.
Ils ont voulu faire ça un peu plus subtil. OK, parfait, je comprends. All right, ben merci pour ces deux petites histoires-là. Martin disait une petite histoire avant le dodo, mais là, reste avec nous, Martin, parce qu'il y a du crunchy qui s'en vient. Là. On passe tout de suite avec le sticker, helmet sticker, pardon, et flag de la semaine. Yes, helmet, sticker and flag. On donne un petit props à des gens, à quelqu'un. Idéalement, un membre des médias, quand c'est Wallet, il est tout le temps en train de les propser et de les respecter, ces gens-là. Et on donne une petite tape sur le chapeau aussi à certaines personnes. À chaque semaine, on essaie de faire ça pour vous amener le meilleur de ce qui s'est produit en fin de semaine. Donc, cette semaine, on commence avec le bon Wallet. À qui tu veux donner un petit props cette semaine?
Ben, si tu me le permets, j'en aurais deux.
Vas-y.
C'est correct avec toi. Le premier, ben, on vient d'en parler avec les plus récents insuccès de la SEC puis les succès de d'autres équipes. Je pense que les fans de college football en général, on se mérite un collant. Je pense qu'on s'aligne pour avoir une saison qui risque d'être marquante. Je m'attends à beaucoup d'upsets. Georgia vont rester au sommet numéro 1, mais de 2 à 25, ça va être un free-for-all. Ça va être vraiment intéressant puis c'est pour le plus grand bonheur de nous, les fans de college football.
Yes. Je vais y aller avec mon premier sticker de la semaine. Puis, oui, je suis un fan de football. Oui, je suis un fan d'Alabama. Je suis un fan de plein d'affaires. Mais, pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, à l'époque que je connaissais pas encore assez bien ça puis que je n'étais pas capable de choisir une équipe à part les Ducks d'Oregon parce qu'il y avait des beaux suits, ce que j'aimais par-dessus tout, c'était les upsets. Les upsets, c'est quelque chose qui me motive, qui me thrille. Puis à chaque fois que je vois une équipe qui est très haut rankée, qui perd, ben ça m'excite. Je trouve ça vraiment nice parce que je suis comme, soit que le top 25 n'a pas rapport ou soit que l'équipe a vraiment travaillé. Puis ce que j'aime par-dessus tout, c'est des gros upsets assez majeurs. Oui, comme Bama s'est fait upsetter par Texas, mais ce que ça a comme effet, là, c'est que pour la première fois depuis je ne sais pas combien de temps, en deux semaines, il y a deux équipes du top 5 qui se sont faites upsetter. Il y a LSU qui a perdu la semaine passée, qui était cinquième à l'époque au pays contre Florida State. Puis là, j'ai Bama qui était troisième au pays qui a perdu contre les Texas. Donc, moi, je donne un props à ça. Je donne un props au upset. C'est ce qui fait que c'est le fun, la NCAA. C'est ce qui fait qu'à chaque semaine, on a des histoires. Puis même quand on fait les matchs qui s'en viennent, on est tout le temps, ben, tu sais, il n'y a pas beaucoup de matchs avec de l'intérêt. Il y a des matchs ci, ça, ça. Puis on se ramasse toujours avec des upsets. Il y en a eu plein d'autres, là, des upsets, là, tu sais, que justement, qu'on a parlé pendant le 5-man recap. Là. Miami qui a upseté Texas A&M. Tu sais, c'est toutes des histoires qui... À la fin de la journée, tu regardes ces choses-là. T'sais, Wisconsin qui ont perdu contre Oiseau. Wisconsin était 19e. Oiseau n'était pas classé. C'est ça qui fait que la NCAA est vraiment excitante. C'est ça qui fait qu'au final, le top 25 devient relevant parce que ça peut donner de l'importance à certains matchs. Puis là, mais quand il y a un upset en tant que tel, ben, ça, c'est plus impressionnant. Donc, le sticker de la semaine vient à ça. C'est pas quelque chose en particulier, mais c'est plus à un événement qu'on ne peut pas contrôler. Mais quand ça arrive, c'est toujours plaisant. Donc, ça, c'est mon sticker de la semaine. Je vais te laisser y aller avec ton deuxième sticker de la semaine, Wallet.
Ouais, c'est un sticker combiné à Steve Sarkisian puis Quinn Ewers de Texas. Premièrement, Quinn Ewers, on l'a dit tantôt, tu en as parlé très bien dans ton segment, connaît un très fort match. Comme j'ai dit, il s'était blessé l'an dernier durant le match contre Alabama. Un match que l'équipe du Texas dominait à l'époque. Puis, je suis obligé de remettre un sticker dans ce match-là. Gagner sur la route contre Alabama, c'est extrêmement difficile. Puis, naturellement, Steve Sarkisian qui remporte son pari. C'est pas facile d'être un coach en chef au Texas. C'est une équipe, spécialement des fans, des boosters, qui ont beaucoup d'argent. Puis que... ils n'ont pas de misère à aligner une coupe de millions pour congédier un coach si le coach ne remporte pas les grands matchs. Puis un match comme ça, c'est un match signature pour lui sur la route contre Alabama, l'ancienne équipe pour laquelle il était coordinateur offensif. Chapeau à Steve Sarkisian. Quelle sorte de fin de saison qu'on va avoir au Texas? J'en ai aucune idée, mais on s'établit comme l'une des équipes principales à suivre pour le reste de la saison. Puis une équipe qui, si on remporte tous nos matchs, il n'y a aucune raison qu'il soit pas en éliminatoire. Donc, chapeau à Quinn Ewers et Steve Sarkisian.
Yes, beau travail. C'est vrai, effectivement, ça fait du bien. Puis, on sait que le long terme est assuré au Texas là, avec Arch Manning qui s'en vient après ça. Tu sais, je veux dire, comme, je pense que c'est un bon temps pour être fan de Texas. Donc, props à toi, Martin. Tu as mangé ton pain noir pendant un certain temps, mais là, je pense que the future is bright, comme ils disent en bon français. On va continuer ça avec les flags de la semaine. Je vais commencer avec mon premier flag. Puis, j'ai commencé à écouter, la semaine passée, j'ai donné mon flag là, à Fox, là, avec leur petite infographie d'enfant de 4 ans, que ça n'avait pas de 6 $. Puis là, cette semaine, j'arbitrais au football samedi, fait que j'ai pas pu écouter les matchs, mais j'ai pu écouter le College Game Day en début de journée. C'est quand même toujours intéressant parce qu'ils font le tour de plusieurs matchs, puis ils ont plusieurs informations qu'ils donnent toute l'équipe. Puis souvent, je l'ai juste la télé roulée pendant que je fais d'autres choses chez nous. Puis mon flag de la semaine va, je sais pas à qui le donner précisément. Est-ce que ça va à ESPN ou ça va directement à lui, là, mais Lee Corso, là. Faut qu'on fasse quelque chose. Faut qu'il y ait une intervention qui soit faite pour ce monsieur-là, sérieusement. C'est un vieux monsieur, il est rendu complètement sénile, on comprend pas quand il parle, il articule pas bien, il s'exprime pas bien, ce qu'il dit, c'est confus, il a juste l'air confus, là. Ils ont juste l'air, puis même eux le savent, là, parce qu'ils le mettent spontanément, là. Ils le mettent là, de temps en temps, puis après ça, ils l'enlèvent, puis... mais pourquoi vous le gardez? C'est même plus drôle, c'est rendu triste à voir. Là. Comme là, cette semaine, là, il a voulu faire là, la fin du show fini sur lui qui met une tête de mascotte parce qu'il prend pour l'équipe où ils sont en train de faire le College Game Day. Cette semaine, il était à Tuscaloosa, en Alabama. Puis là, ben lui, à la fin complètement, il était comme « Ah, ben là, partez la musique! » Puis là, c'est la musique là, de Bama qui part, puis là, Sweet Home Alabama qui part. Puis là, il est comme « Fucking script! » C'est télégraphié à côté, il est comme « Ouais, 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 c'est pas la bonne chanson. Puis il a l'air fucking traversé, là. C'est Valium ou je sais pas quoi, man. Puis là, ça part une tourne du Texas. Puis là, il fait juste mettre la grosse tête de la mascotte. Puis il fait des saluts, man. Puis il est chambranlant à côté. Puis à côté de lui, c'est... comment il s'appelle?
L'analyste,
là. Ouais, il donne une tape sur la tête de la mascotte, man. Puis il a l'air d'être sur le point de tomber. Je veux dire... Comme je le dis, là, c'est même plus drôle. C'est même plus genre comme... C'est même plus un running gag de t'as juste le vieux gars un peu, tu sais, il joue le rôle.
Moi, je te dirais, frère, que je m'excuse de t'interrompre. Ouais, ça me dérange pas qu'il le fasse venir pour les prédictions de la semaine puis qu'il se mette une tête à la fin, la tête de la mascotte à la fin du show. Moi, c'est vraiment au début du show, quand il parle, là, c'est comme tu as dit, il est sénile, puis ses phrases, non seulement il articule pas, mais elles font pas de sens. Il dit des phrases que des fois, il répète exactement ce que le gars à côté de lui vient de dire. J'ai l'impression que je parle avec ma belle-mère qui fait juste de répéter, mais c'est un monsieur qui est historiquement sous une légende, mais écoute,
non, mais
gardez-les pour la fin.
Non, mais
puis...
il est rendu... Mais même pour la fin, là, comme... moi, ce que je voulais
moi, dire... Moi, je me sens mal un peu pour lui. Je sais pas si
ben
c'est
oui,
la...
c'est,
il fait pour l'argent.
C'est gênant, le rendu-là. Là. C'est juste comme... On... Ça a l'air, c'est, je sais pas comment dire. C'est, mettons, tu le gardes là, parce que ça fait genre un animal de cirque. Là. T'sais, on est rendu là, là. Mais c'est même plus un peu drôle. Là. C'est rendu vraiment triste. Genre, je regarde ça, puis je suis juste comme, mon Dieu, mais c'est bien malaisant. Là, genre, comme, personne n'a de fun. Hey, la tête de mascotte, là, fais faire ça à Pat McCaffrey, là, Chris. Là, le gars, là, il est super sacoche, il est super dynamique, il passe le monde en entrevue, il est super dedans. Puis comme, moi, je l'adore comme personnalité, en fait, qui analyse ça. Fais-y faire ça à lui, là, se mettre une tête de mascotte sur la tête. Là. La tradition est cool de faire ça. Pas de trop, mais fais-y faire ça à lui. Là. C'est rendu la. C'est ça, là, c'est rendu la nouvelle garde, là, c'est rendu la jeunesse. Là, c'est ça qu'on veut un peu. Puis je fais pas de l'âgisme nécessairement. Là, genre. J'adore les gens qui ont de l'expérience puis les gens qui sont capables de m'apprendre des choses parce qu'ils sont expérimentés. Sauf que là, comme je dis, là on a dépassé. Là on étire la sauce, on étire l'élastique, puis c'est pas utile, c'est pas drôle, puis c'est triste. Fait que bref, flag de la semaine, à eux autres. J'en ai assez parlé. Lee Corso, rien contre toi, monsieur. T'es une légende. Il est temps que t'aies écouté College Game Day assis dans ton salon. Puis fais-toi du popcorn, fais-toi des poppers au jalapeno, stuff ça avec du Philadelphia, wrap ça dans le bacon, crisse ça dans la friteuse, puis amuse-toi comme nous autres, mais crisse-moi patience avec tes astuces d'analyse qui n'ont plus de calice de sens. Voilà ton flag de la semaine, s'il te plaît.
Hey, les fans de Miami, Miami, quand j'ai commencé à écouter le college football, Miami, c'était une équipe qui j'étais naturellement attiré par cette université-là parce que, pour ceux qui ne le savent pas, dans la NFL, je suis un fan des Ravens, puis la majorité des excellents joueurs du milieu des années 2000 venaient de Miami. Je pense à Ray Lewis, Ed Reed, j'oublie le porteur de ballon aussi là, qui avait joué là. Mais anyway, Miami, c'est une équipe que j'aimais. Puis une raison pour laquelle j'ai comme décroché un peu de Miami, plus que je suis devenu un fan du sport, c'est que les estrades sont vides. Puis là, cette semaine, comme tu as dit, il y avait le potentiel de faire un upset. Ils l'ont fait. Ils affrontaient Texas A&M, qui n'est pas une petite équipe. Les estrades étaient vides. La section étudiante était vide. Flag de la semaine, c'est gênant. La majorité des tu sais, on aime ça dire « Ah, la SEC ci, la SEC ça, blablabla. » La SEC, une équipe va finir la saison 4 et 8. Puis les estrades vont être pleines quand même. À Miami, ils vont finir 10 et 2. Puis, ah, OK, on va commencer à remplir les estrades. Ça me rappelle un peu quand que USC remplissait leur estrade il y a de ça 3 ans avant que le NIL arrive puis que Lincoln Riley transfère là. Les estrades étaient vides. Il fallait changer la culture de ce programme-là. J'espère que Mario Cristobal va être en mesure de faire la même chose avec les fans des Hurricanes de Miami.
Yes. All right, on va continuer ça rapidement avant de passer avec le segment horaire. On va, combiner deux petits segments. Le segment à chaud, un hot take pour cette semaine ou à ce jour dans la NCAA. Je vais te laisser. Voilà. Moi, j'en ai pas personnellement, mais toi, tu en as quand même un gros. Puis je peux pas être plus d'accord avec le tien, fait que je vais te laisser le présenter.
Ben, avec ce qu'on a vu, puis regarde, ça a le temps de changer. C'est peut-être un overreaction. Puis souvent, là, à chaque fin de mois, donc. Comment?
T'exagères.
Wallet, t'exagères. À chaque fin de mois, on fait comme un compte-rendu de les équipes sont rendues où puis qui peut faire les séries. Mais en ce moment, après 2 semaines de jeu, à la mi-septembre, le 12 septembre 2023, les Bulldogs de Georgia vont être en éliminatoire avec 3 nouvelles équipes qui n'ont jamais participé au College Football Playoff. Ce qui veut dire que Alabama, bye-bye, Clemson, bye-bye, LSU, bye-bye. Mais surtout, Ohio State et Michigan, bye-bye. Donc, mes prédictions de début de saison, complètement, complètement dans le champ. Mais ça va nous offrir des séries excitantes avec des nouveaux logos, des nouvelles couleurs. Puis, j'espère que mon hot take se réalisera.
En fait, ça me fait penser un peu à un hot take. Puis, c'est pas tant un hot take là, qu'un statement, là, mais historiquement, j'ai toujours été le gars qui brague, qui défendait le fait de mettre des playoffs à 12. Parce que j'étais tanné de voir toujours les mêmes 4 équipes en playoffs, puis de voir, c'était juste à peu près les
3 équipes. Dion, ça t'a pris 3 ans.
C'est ça. Puis là, quand je vous ai convaincu, par le temps que je vous convainque, ben là, on a peut-être un changement de garde au top de la NCAA. Mais ce que ça fait comme effet, c'est que Bama, mettons, qui mérite peut-être d'être 10 ou 12e, ben là, présentement, cette année, ils ne seront pas dans le top 4. Fait que ça va nous donner des éliminatoires complètement différentes, complètement nouvelles. Mais là, l'année prochaine, dans un playoff picture à 12, ben là, Bama va y être. Puis Ohio State va y être. Puis plein d'autres équipes qui, historiquement, on n'aurait pas vu dans le top 4 vont être en playoff. Puis ça va leur donner une shot sur le National Championship. Puis là, au final, on va peut-être ce qu'on voulait couvrir, c'est-à-dire avoir des équipes 8 à 12 qui sont nouvelles et qui permettent de challenger week 1 ou week 2 ce qui se passe en haut, puis essayer d'aller brouiller les cartes pour se rendre dans le carré d'as. Mais là, ce qu'on va faire, c'est que le carré d'as va être constitué de nouvelles équipes que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu au top. Puis là, les équipes de 6 à 12, ça va être des équipes qu'on est habitué de voir puis qui sont, comme on a déjà discuté quand ils ont été là il y a 2 semaines, buildées pour les playoffs. Puis ben, ils vont réussir à gagner, se ramasser dans le corridor, c'est potentiellement avoir une shot au National Championship. Fait que ce qu'on voulait fighter, le playoff à 12 va nous le ramener en pleine face avec les mêmes équipes. Moi, c'est mon texte de cette semaine. On voulait contrer quelque chose, puis on va juste se le faire foutre dans la face dans une couple d'années, d'après moi. C'est sûr, c'est ça qui va arriver, là, parce que les programmes qui vont un peu baisser leur domination en saison vont se ramasser dans le bas du top 12, tu sais. Puis là, au final, mais ça va être des nouvelles équipes à haut. On va faire comme, ouais, des nouvelles équipes. Puis là, au final, mais ça va être les mêmes qui vont gagner. Ouais. Oh non, we suck again.
Oh, on a une demi-finale Ohio State, Alabama. Oh non.
Hey, je vais prendre 30 secondes. Il y a Pierre Roibon, man, qui est dans le chat, puis qui est en France présentement. On est 10h, il est 10h30 de notre côté. On est en train d'enregistrer. Ça veut dire que chez vous, il est genre 11h30. 2, 3, 4, 6. Ouais, il est 4h30 du matin, man. Mais merci
de nous. Nous, se lever pour aller travailler.
Ouais, je peux pas croire. Merci. Il doit être boulanger, puis il se lève de bonne heure pour commencer les pains de ses compatriotes. Merci, Pierre. C'est bien apprécié de ton petit coucou. On va continuer ça tout de suite avec le segment horaire. Donc, qu'est-ce qui est à surveiller dans la semaine 3 de la NCAA? Yes, on va.
C'est quoi le drop de cette équipe-là?
Ça, c'est Ohio State. C'est le battle cry de Ohio State. Ils sont tous bons. J'essaie de les mettre avec les thèmes qu'on a puis, pour réveiller les auditeurs qui nous écoutent depuis déjà 1h08. Merci d'être là. Ceux qui sont en live aussi, merci beaucoup de rester là. C'est super apprécié. Là, après 1h08, si tu as un pace de à peu près 4 minutes et demie par kilomètre, Steph, tu dois être à peu près rendu à ton 10-12e kilomètre. Donc, je te dis, lâche pas pour ton demi-marathon. Tu y arrives, on va t'accompagner pour toute la durée de ton demi-marathon. Pour la semaine 3 et pour le reste de la saison, on va essayer de changer un petit peu la formule pour les matchs à surveiller parce que, tu sais, depuis longtemps, on avait la même formule. Tel match va être à tel écran, telle heure, puis tout le kit. On va essayer d'y aller avec des catégories de matchs. Donc, évidemment, on va peut-être parler de moins de matchs. On va peut-être pas tous avoir un match à discuter dans chacune des catégories, mais ça va peut-être mieux vous enligner si vous voulez en regarder que un ou que deux ou savoir dans votre fin de semaine, dans votre horaire de fin de semaine. Là, dimanche, je veux tout écouter les games qu'il y a à TV pour checker mon fantasy crashé parce qu'Aaron Rodgers explose un tendon d'Achille. Fait que, qu'est-ce que je pourrais écouter le samedi là, s'il y en avait un qui a écouté ou si genre j'ai un upset alert ou ça serait quoi le most underrated match là, que genre je m'attendais pas à ce que ça soit bon puis ça pourrait être bon là. Fait que, on va y aller avec des catégories de matchs pour à partir de maintenant. Donc, on va commencer avec la première catégorie. Là, si tu peux regarder juste un match, là, s'il y a juste un match là, que samedi, tu as le droit d'écouter, ton gazon est fait, la bouffe est faite pour la semaine, tout est préparé, les devoirs, les leçons de tes enfants sont faites, là, je veux m'asseoir, à quelle heure je peux m'asseoir, là, puis lequel je devrais écouter. Wallet, je t'envoie la puck en premier. Si j'ai juste un match à écouter cette semaine, lequel j'écoute et pourquoi?
Écoute, d'entrée de jeu, sur papier, puis regarde, je le dis sur papier parce que je vais quand même écouter beaucoup de matchs, je suis un fan. Sur papier, il n'y a pas de match étoile là, que tu regardes, tu dis « wow, ça c'est un match incroyable », mais je vais prêcher pour ma paroisse ici, l'équipe 14e au pays, les Tigers de LSU qui se transportent directement, sortent du Bayou pour aller au Mississippi pour affronter les Bulldogs de Mississippi State. Un duel qui pourrait être intéressant pour plusieurs raisons. Premièrement, les demi de coin, la tertiaire en général de LSU est vraiment pas bonne. Puis Mississippi State avec Will Rogers peut lancer beaucoup. Depuis le début de l'année, les Bulldogs ont une bonne attaque au sol. Sont 21e au pays avec plus de 220 verges. Ils n'accordent pas beaucoup de points, donc ça ne sera pas une tâche facile pour LSU. C'est un match qui pourrait être un match trap, comme on dit souvent en anglais. Je ne m'attends pas à un duel facile pour la troupe de Brian Kelly. Malgré le fait que si on regarde la cote de Vegas actuellement, laissez-moi l'ouvrir. On dit, OK, ici, LSU est favori par 9,5 points. Moi, je trouve que c'est quand même élevé. J'ai l'impression que Mississippi State vont garder ça plus serré. Je vois là, une victoire de 1 touché pour les Tigers de LSU, mais dans un duel intéressant. C'est deux équipes qui, historiquement, s'affrontent toujours à la troisième semaine de l'année, donc la troisième fin de semaine du mois de septembre. Puis de mémoire, c'est souvent un bon match, donc je vais continuer dans la lignée. Je m'attends à ce que ce soit un bon duel, encore une fois, cette année.
All right. Je pense que c'est... Ouais, toi, c'est un match que tu veux nous parler plus tard pour une autre raison. Moi, je vais vous le présenter tout de suite pour d'autres raisons. Je vais vous parler, si tu as juste un match à regarder, je vais te parler du match de Kansas State contre Missouri. Kansas State, 15e au pays, s'en vont rendre visite à Missouri, une autre équipe de la SEC. Puis Kansas State, c'est une équipe de la Big 12. Présentement, on donne beaucoup d'amour à Texas dans la Big 12 parce que ben ils sont bons à Chris, puis ils gagnent, puis ils ont battu Alabama. Puis, fait que présentement, on donne beaucoup d'amour à eux. Mais présentement, d'après moi, Kansas State, ça va être la deuxième meilleure équipe qui va être contender dans la Big 12. Il y a un potentiel qui a gagné un autre game contre SEC. On parlait justement, est-ce que la dynastie de la SEC est à risque? Deux équipes invaincues présentement sont 2-0 les deux équipes. Kansas State est même favori par moins 5 points, donc plus qu'un field goal. Donc, j'ai hâte de voir ce match-là. Donc, si j'avais un match à écouter, c'est à midi en plus, milieu de la journée, j'écouterais ce match-là pour voir si Kansas State est capable là, de s'imposer comme étant vraiment la 15e meilleure équipe au pays, puis créer un autre défaite là, pour une équipe de la SEC. Donc, pour moi, c'est le match à regarder là, cette semaine. Deuxième catégorie de match qu'on va vous parler semaine après semaine, c'est quoi le match le plus compétitif? T'sais, on en parle souvent là, depuis le début de l'année, là, Notre Dame là, qui reçoivent Central Michigan. Là. Ben ça, c'est un bon match pour vous permettre de voir si les 9 bars dans les end zones sont vraiment à 42 degrés. Okay? On va s'entendre, mais ça, c'est un hostie de bon match pour analyser ce genre de tracas-là. Parce que il n'y a pas un univers parallèle dans lequel ça existe que Central Michigan vont battre Notre-Dame en fin de semaine. Okay? Le over-under est à 34,5 pour Notre-Dame, pour ceux qui sont vraiment intéressés par ce match-là. Ça ne vaut même pas la peine de mettre l'argent sur le money line, bien honnêtement. Donc, on veut vous parler du match le plus compétitif de la semaine. Un match compétitif, ça se peut que ça soit un match serré, mais ça se peut que ça soit un match qui finisse avec un high scoring ou des choses comme ça. Wallet, je vais te laisser parler de ton match le plus compétitif de la semaine.
Oui, mon match le plus compétitif de la semaine, c'est le premier match de l'histoire de Houston dans la Big 12. Ils reçoivent à la maison les Horned Frogs de TCU. Deux équipes avec des débuts de saison un peu décevantes, on ne sera pas de cachette. Les deux équipes sont à 1-1. Par contre, ces deux équipes du Texas, ces deux équipes qui, naturellement, les joueurs dans ces équipes-là, beaucoup de joueurs viennent du Texas, beaucoup de joueurs ont déjà joué ou se sont affrontés dans le passé lorsqu'ils étaient au secondaire. Il y a des rivalités instantanées dans des matchs comme ça. C'est deux équipes qui peuvent marquer beaucoup de points. Chandler Morris, le carrière de TCU, est capable de sortir des matchs de 400 verges. puis Houston accorde beaucoup de points. Donc, mais Houston aussi est capable de marquer beaucoup de points. Donc, je m'attends à ce qu'il y ait beaucoup de points qui sont en tête marqués. Ça fait beaucoup de fois que j'ai beaucoup de points dans la même phrase. Mais l'over-under, t'as 64,5. Puis si j'avais à miser un vieux 2$ en papier, là, les bons vieux 2$ comme brun foncé, je le mettrais sur le over en haut de 64,5 pour ce duel-là. Je m'attends. C'est pas un match qui est exceptionnel. Point de vue classement, point de vue, impact sur la fin de la saison, mais je pense que c'est un match de football qui va être intéressant et qui va être compétitif entre deux équipes du Texas remplies de joueurs qui se connaissent et probablement ne s'aiment pas ou s'aiment puis on veut battre nos amis.
All right. Moi, le match le plus compétitif de la semaine, j'hésitais entre le mettre dans mon upset alert ou le match le plus compétitif de la semaine. Je vais vous parler de Tennessee. Tennessee, 11e au pays, qui s'en va rendre visite à Florida. Un duel dans la SEC. Florida qui sont 1-1, Tennessee qui sont 2-0, mais on en a parlé un peu plus tôt dans le downfall de la SEC, dans notre segment Out of the Box. On a mentionné que Tennessee a eu toutes les misères du monde contre Austin Peay à la semaine 2. Donc, Tennessee sont présentement favoris par 6,5, donc je pense quand même que ça va être un match intéressant, ça va être une bonne rivalité dans la SEC. Le over-under est à 59. Je pense que ça va être au-dessus de 59, très honnêtement. Donc, ça va être un match high scoring. Ça va être un match qui va finir par moins d'une possession de ballon. Donc, pour moi, c'est un match qui est le plus compétitif de la semaine. Là, ça va être ce match-là pour moi. Tennessee, je pense qu'ils sont en danger. Je ne sais pas s'ils se classent dans le fameux upset alert qu'on va parler plus tard. Mais je pense que ça va être un match qui est quand même assez intéressant au Ben Hill Griffin Stadium en Floride. Autre catégorie qu'on va vous parler dans les matchs de la semaine, ça va être le match le plus sous-estimé. Donc, un match que, sur papier ou quand tu le vois passer dans l'horaire, tu te dis « Mais, ça n'a pas l'air d'un match qui va être si bon que ça, mais qu'au final, ça pourrait surprendre ou ça pourrait être très intéressant. » Wallet, je te laisse parler en premier. Ça va être quoi ton affrontement?
Ouais, je m'attends ici à ce que ce soit la visite des Aztecs de San Diego State qui se rendent à Corvallis en Oregon pour affronter les Beavers d'Oregon State. San Diego State qui sont déjà 2-1 depuis le début de la saison. Ce que je retiens surtout, c'est qu'ils mettent en moyenne près de 200 verges au sol par match, avec une moyenne d'environ 25 points lors de leurs trois premiers matchs. S'ils sont capables de contrôler le temps de possession, s'ils sont capables de rester en attaque sur le terrain puis donner le moins de chances possible à DJ Uiagalelei d'être sur le terrain, je pense qu'on peut avoir un duel qui est intéressant. Quand on regarde les statistiques des deux équipes, on se dit « OK, Oregon State devrait remporter facilement, mais tu as une équipe qui court bien, tu as une équipe qui contrôle bien le ballon, qui mettent relativement assez de points pour être compétitifs. Je ne vois pas un upset ici. Je m'attends à ce que Oregon State l'emporte, mais je m'attends à un duel beaucoup plus intéressant que... Tu sais, j'ai regardé la liste et je me disais, OK, bon, en temps normal, je ne regarderais pas ce match-là, mais je pense qu'il y a un potentiel ici. Puis, écoute, DJ Uiagalelei connaît un bon début de saison depuis le début de l'année pour les Beavers. Il approche les 400 verges sans toucher. Donc, on continue de suivre ça. Les Beavers qui sont 16e au pays, c'est une belle histoire là, en ce début de saison.
Yes. Moi, je vais vous parler d'un match qui, en début de saison, en fait, aurait pas eu mon attention, mais là, va peut-être avoir mon attention. C'est l'affrontement entre Minnesota et North Carolina. Donc, Minnesota s'en va rendre visite à North Carolina. On l'a dit tantôt, North Carolina répond pas aux attentes depuis le début de la saison, n'ont pas des performances exceptionnelles. Donc, je m'attendais à ce que ce soit un match qui soit sous-estimé en début de saison en disant North Carolina est bien meilleur que Minnesota. Puis là, présentement, je regarde Minnesota, ils sont 2-0 présentement. On gagne contre Nebraska, on gagne contre East Michigan. C'est pas nécessairement des équipes à se péter les bretelles. Par contre, ils sont bien setés pour être capables de potentiellement créer un upset. Le money line est à moins 7,5, donc un peu plus qu'un touché. Mais je pense quand même que en début de saison, cet affrontement-là était probablement classé à plus que 17 points pour North Carolina. On pensait que ça allait être un walk in the park. Donc, je pense que si à l'époque il était sous-estimé, c'est un match qui aujourd'hui pourrait bien attirer votre attention, à savoir est-ce que Drake May va être capable de sa rédemption, va être capable de se rattraper là, de sa performance un peu coussi-coussa des dernières semaines. C'est le match que je pense qui est le plus sous-estimé cette semaine. Évidemment, ma catégorie préférée qui s'en vient, donc on va parler du upset alert. On a parlé de plusieurs matchs qui avaient un potentiel d'être serrés un peu. Ton upset de la semaine, ça serait qui et pourquoi, voilà?
Ben écoute, t'en as parlé tantôt. Moi, je suis obligé d'y aller avec Kansas State contre Missouri. Je pense que Kansas State sont relativement incroyables, spécialement en défensive depuis le début de l'année. C'est une équipe aussi qui peut marquer des points, puis sont menés par Will Howard, qui est explosif en offensive. T'en as parlé déjà de ce match-là. La raison que je pense qu'on pourrait avoir un upset, Missouri sont 2-0 depuis le début de l'année, ont un début de saison relativement intéressant. Il faut se rappeler, il y a de ça un an quasiment jour pour jour, les Tigers de Missouri avaient quasiment surpris les Bulldogs de Georgia sur la route. Est-ce qu'ils répètent l'expérience cette année, mais de façon positive à la maison? Je pense que ce n'est pas impossible qu'on voit les Tigers remporter le duel face aux Wildcats.
Yes. Moi, je vais aussi y aller dans un match que tu as déjà parlé. Évidemment, là, on arrive à la fin du segment, donc c'est un peu plus compliqué de choisir dans la boîte à game. Mais j'ai besoin de mettre un petit bémol sur la game de LSU contre Mississippi State. Mississippi State sont invaincus depuis le début de la saison. Un duel dans la SEC. LSU ont déjà une victoire à leur actif contre Florida State. Le plus 1 moyen, on l'a dit tantôt, est à 9.5 pour LSU. Mais je pense que, vu que c'est à Mississippi State, je pense qu'il y a peut-être possibilité que le 12e joueur joue dans la tête de LSU puis qu'ils vont peut-être échapper à ce match-là. Je te souhaite pas, Wallet. Je te souhaite pas. Je veux pas te jinxer. Mais s'il y a un potentiel d'upset, je pense que ce match-là pourrait avoir un upset là, dans les matchs à surveiller cette semaine. Donc voilà, ça fait un peu le tour du nouveau segment. Vous nous direz comment, en nous écoutant, vous avez apprécié ce segment-là, donc avec des catégories. On s'est un peu fié aussi à Marc-André qui nous demandait récemment « Hey, pour quelle équipe de la NCAA je devrais prendre? » Mais justement, en sachant que tu ne vas pas écouter les 167 matchs qu'il y a sur tes écrans, ben on t'a donné 4 catégories. Donc, tu peux choisir un match dans ces catégories-là pour être capable de potentiellement choisir une équipe. Donc, voilà, ça fait un peu le tour des matchs à surveiller. À l'horaire aussi, je vais y aller en rafale rapidement. Vous pouvez aller sur notre Twitter aussi. Wallet fait un travail acharné pour ça à chaque semaine. Il va sortir l'horaire sur les écrans du Québec, en fait, les matchs qui sont sur nos écrans. Donc, en résumé très rapidement, vendredi le 15 septembre, on a Army contre UTSA à 19h sur TSN, un match plus ou moins intéressant, très honnêtement. Le samedi 16, on a les matchs de midi, Florida State contre Boston College, à savoir si Florida State va continuer sa domination. Ils sont présentement 3e au pays, quand même assez impressionnant depuis le début de la saison. Ça va être sur ABC et sur TSN. Penn State, 7e au pays, ça va rendre visite à Illinois à midi sur Fox. Je vous conseille pas d'écouter ce match-là parce que les graphiques de Fox, ça suce. Les matchs de milieu d'après-midi, donc tout ce qui commence entre 15h30 et 16h, il y a ça aussi qui est bien dans la NCAA. Les matchs commencent plus tôt à partir de midi, puis les matchs d'après-midi, bien, il y a plusieurs heures de début de match, donc on peut alterner entre ces différents matchs-là quand on les écoute. South Carolina, ça va rendre visite à Georgia à 15h30 sur CBS. Comme on l'a dit, l'horaire de Georgia cette année est quand même assez walk in the park, donc est-ce qu'on porte attention à ça? Plus ou moins, peut-être regarder là, d'un œil pas très attentif. Alabama sont rendus 10e, leur défaite leur a fait très mal, ça va rendre visite à South Florida à 15h30 sur ABC et TSN. Est-ce qu'Alabama va réussir à retrouver le chemin de la victoire et idéalement, le chemin du top 4 pour la fin de la saison. Western Kentucky s'en va rendre visite à Ohio State, qui est 6e au pays présentement, Ohio State, à 16h sur Fox. Donc, ça peut être un match qui va être intéressant à ce niveau-là. Et les matchs qui débutent en soirée, donc à 19h ou 20h, on a James Madison versus Troy au NFL Network. C'est des équipes qui, habituellement, n'ont pas la chance, je dis ça avec des gros guillemets, de voir sur nos écrans. Donc, à 19h, si jamais vous voulez jeter un petit coup d'œil à deux équipes qu'on voit moins souvent, peut-être qu'il y a des choses qui pourraient être intéressantes. Syracuse versus Purdue. On n'a pas beaucoup parlé de Syracuse depuis le début de la saison parce que notre boy Matthew Bergeron est rendu dans la grosse ligue et a réussi à faire gagner son équipe en fin de semaine, justement. Mais bref, il se retrouve sur nos téléviseurs à 19h30 sur NBC. Il y a Pitt qui va rendre visite à West Virginia à 19h30 sur ABC et TSN, des équipes qui ne sont pas classées présentement. Et en fin de journée, on a TCU contre Houston. Wallet vous en a parlé un peu tantôt. Donc, à 20h sur Fox. Donc, ça fait un peu le résumé. Comme j'expliquais tantôt, j'ai pris le temps de vous les présenter de vive voix, mais n'hésitez pas à suivre notre X ou notre Twitter de Triple Option 3 pour voir cette liste-là. À chaque semaine, Wallet sort la liste et on va la piner en bon français au top de notre page Twitter pour que vous soyez.
Je viens de le faire au moment que tu parles.
Non, parfait. Donc ça, c'est de la productivité. Pendant que je parle, Wallet se rend efficace. Wallet, merci beaucoup pour ce gros show-là. C'était vraiment intéressant. Très honnêtement, on essaie de se réinventer semaine après semaine. Merci à tous ceux qui étaient là dans le chat en live, qui ont fait des commentaires. On a essayé de les adresser ou d'en parler pendant le show. Ceux qui nous écoutent en audio, c'est toujours apprécié aussi. Merci beaucoup pour ça. N'hésitez pas, comme on le dit à chaque fois, de le partager. Notre but, c'est d'avoir le plus des gens qui nous écoutent. On a un marché qui est niché. On a un sujet qui est niché. Parler de NCA en français québécois, c'est très niche. Donc, si vous avez des amis qui commencent à s'intéresser à ça, qui écoutent un petit peu ça, ben pour être capable de leur pointer les choses intéressantes à regarder semaine après semaine ou les choses qui ont
ou qu'ils manqué. Disent, si que c'était plate le Sunday Night Football, ça a fini 40-0, du, hey, le samedi, il y a du bon football.
Ouais, il y a ça aussi, effectivement. Chers auditeurs, comme toujours, c'est pour vous qu'on fait ça. J'espère que vous appréciez ça. Donc, on vous le remerciera jamais assez. Merci beaucoup, Wallet. Merci beaucoup de ton temps, de ton implication et de ton investissement dans ce show-là. C'est super agréable de travailler avec toi semaine après semaine. Messieurs, je dis messieurs parce que je me demande s'il y a des dames qui nous écoutent. Donc, je vais dire messieurs. Ça va peut-être faire réagir la gente féminine qui dit « Hey, moi, je vous écoute. » Messieurs, merci beaucoup d'avoir été là. Jusqu'à la prochaine fois, je vais vous dire « Soyez sages. Aimez-vous. Bye-bye. » We'll be right back.